Écoutez, vous savez que récemment, notre ville a été affectée par des inondations. Et puis, l'Église, cette fois-ci, s'est levée. Et puis, j'aimerais vous présenter deux autres partenaires qui vont vous expliquer un petit peu, parce que certainement, vous n'avez entendu parler, du réseau, R-E-S-O. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter le pasteur de l'Église Le Chemin. Bonjour, Jean-Pierre.
Salut, Luc.
Et aussi Samaritan Purse, pour certains, peut-être que vous ne connaissez pas cet organisme. C'est un organisme international de l'association Billy Graham, mais qui s'occupe vraiment là, de ceux, là, comme on a eu ici à Gatineau, qui sont soit en détresse là, face à leur demeure, etc. Alors, j'ai avec moi Andy de Samaritan Purse.
Thank you very much and good morning.
Jean-Pierre, explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que réseau, combien d'églises et quel genre de personnes qu'on a pu toucher.
Ça me fait plaisir de vous partager ça. Juste avant, je vais prendre 30 secondes pour remercier votre église. Parce que plusieurs ne le savent pas, mais à tous les matins, pendant ces journées-là, on se réunissait ici à 9 heures. Et puis, Maud qui nous faisait de l'excellent café. Et puis, on se réunissait ici avec toute l'équipe pour aller sur les chantiers, travailler pour aider les personnes sinistrées. Et vous avez un organisateur extraordinaire, parce que lorsqu'on est arrivé ici, j'ai vu que même la façade du bâtiment, vous l'aviez là démoli un peu pour vraiment donner un look sinistré. C'est extraordinaire, pasteur. C'est vraiment merveilleux de voir ça. Quelle organisation, tu sais. Alors, réseau, écoutez, la façon dont c'est né, c'est tout simplement du fait que lorsque les inondations ont débuté à notre église, on s'est dit, il faut faire quelque chose, il faut avoir un impact auprès de la population. Et on a demandé à notre église s'il y avait des gens qui voulaient être bénévoles pour aller aider les sinistrés. Et je connaissais un pasteur d'une église pentecôtiste, et puis je l'ai appelé, et je lui ai dit, écoute, voilà ce qu'on veut faire, ça te tente-tu de te joindre à nous autres? Et puis, d'entrée de jeu, il disait, écoute, hey, on pensait la même chose, c'est super, fait que travaillons ensemble. Et là, l'idée m'est venue d'appeler toutes les églises évangéliques de la région. Et je vous dis, à date, là, ça a été extraordinaire. Des églises indépendantes, des églises baptistes, des églises pentecôtistes, différentes églises. Je vous dirais qu'on a à peu près une dizaine d'églises évangéliques qui se sont unies ensemble et qui ont dit, on va travailler ensemble, main dans la main, pour avoir un impact auprès des personnes sinistrées de la région. Et c'est comme ça que Réseau est venu. Et puis, on a aidé des dizaines de personnes et je pourrais passer l'avant-midi à vous partager des témoignages extraordinaires de ce qu'on a vécu. Des personnes, là, lorsqu'ils voyaient ce qu'on avait fait, ils fondaient en larmes. Et puis, à un moment donné, on est même arrivé chez une dame qui, je crois, s'appelle Mélanie. Je suis pas certain, je pense qu'elle s'appelle Mélanie. Et c'est une dame de cette assemblée ici qui était sinistrée. Et personne ne semblait être au courant. Je sais pas si elle est ici ce matin. Non? Et puis, c'est une dame de l'église ici, j'ai vu qu'elle avait une Bible, j'ai commencé à lui parler et elle m'a dit qu'elle était membre de l'église ici et elle a tellement, mais tellement été touchée de l'amour qu'on a manifesté à son égard, de tout ce qu'on a fait. Et hier, on a encore fait une dernière maison, ben, on va en avoir d'autres là, mais on en a fait un autre hier. Et une maman, 6 enfants, et lorsqu'on est arrivé là, qu'elle a vu ce qu'on avait fait, elle a éclaté en sanglots. Ça a été un travail extraordinaire. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que j'en ai parlé avec Luc, avec Alex ici, avec les autres pasteurs de la région, et on s'est dit, il faut pas que Réseau arrête. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on s'est dit, il faut que ça puisse continuer. Dans ce sens que vous autres dans l'église ici, si à un moment donné vous avez un voisin, une voisine qui passe au feu, pourquoi est-ce que les églises se mettraient pas ensemble et dire, hey, on va aider cette personne-là? Moi, c'est ce que j'aime appeler de l'évangélisation. Hein? C'est de l'évangélisation. On apporte l'évangile par nos actions, par nos gestes, par notre amour. Et puis on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'aiderait pas cette famille-là à se sortir de cette difficulté? T'as un voisin, t'as une voisine qui vient de perdre un enfant. Pourquoi est-ce que l'Église ne les aiderait pas? Ta voisine a perdu son mari. Pourquoi est-ce qu'on ne se relayerait pas une couple d'hommes ensemble? Puis, quand il neige, on va déblayer son entrée, on va couper sa pelouse. On lui donne un coup de main pendant un certain nombre de mois. On amène une différence dans sa vie. Et je pense que c'est une opportunité extraordinaire qu'on a de pouvoir faire ça.
Alors, si vous avez été bénévole avec nous, on aimerait ça vous reconnaître et puis on va vous demander de vous lever parce que je pense que votre participation a été extraordinaire. Alors, tous ceux qui ont soit été bénévoles ou récipiendaires de cette bénédiction, levez-vous, même si vous avez participé aux journées que la Ville avait. Merci beaucoup pour votre aide, c'était fantastique. Et puis, il y a les signes du réveil qui viennent en Outaouais, et puis, que je suis donc content, et puis, merci Seigneur. À la prochaine.
Good morning again.
Alors, bon matin.
I just wanted to say, as a member of Samaritan's Purse, we're so thankful for two things, and the first is...
Okay, alors, comme membre de Samaritan Purse, j'aimerais vous partager deux choses.
Is our Lord Jesus Christ and how much he changes lives, he saves people, he's interested in people, he's interested in our lives.
Alors, la première chose, c'est on va remercier le Seigneur Jésus parce que c'est le premier à qui qu'on devrait adresser nos remerciements. Il nous a sauvés.
And the second thing is.
Et la deuxième chose.
Is that pastors and churches allow us to join them in the work in their communities.
Et la deuxième chose, c'est qu'on apprécie le fait que plusieurs églises nous permettent de nous impliquer dans leur milieu.
We have a big old tractor trailer over in the Metropolitan Bible Church yard.
On a un gros tracteur dans une des églises en Ontario.
And it's full of every tool you could think of.
Et c'est rempli de toutes sortes de choses.
But it's no good without volunteers.
Mais c'est vain si on n'a pas des bénévoles comme vous pour les assister et prendre ce matériel-là et puis pour aller vers les autres.
So we just thank you so much for this church that we're able to join with you and do the work in your communities.
Et on apprécie vraiment le fait que cette église, parmi les autres, on a pu utiliser vos bénévoles, vos membres, et puis ça a été une très grande bénédiction pour nous.
And I just want to thank you guys from the bottom of your heart. I think we have seen five people come to accept Jesus as our Lord and Savior.
Et par l'entremise de cette initiative-là, il y a cinq personnes qui ont fait profession de foi pour recevoir Jésus-Christ comme sauveur.
So when we pull out with our truck and our few people that came,
alors, lorsqu'on arrive avec nos camions, toutes nos choses, et puis qu'on se rend disponible à servir,
it is this community that has responded to their community, and we can hope you forget about Samaritan's Purse and join in and continue in your community. And again, we just thank God so much for you.
Alors, c'est le corps de Christ qui a vraiment agi, et Samaritan's Purse a été vraiment a secondé les efforts. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Bonjour frères et sœurs, et merci pour ce beau témoignage. Et nos frères doivent nous quitter. Il est pasteur dans une autre église. Il doit quitter Jean-Pierre. Alors, merci d'avoir pris le temps là, de venir quand même. Alors, tu vas partir à courir tantôt. Là. Merci beaucoup. Un beau témoignage. Eh bien, bienvenue. Alors, si vous joignez à nous pour la première fois ce matin, on est certainement content de vous voir. On a une annonce spéciale à faire ce matin. Il y a quelques années, un frère est venu, un frère qui travaille avec des églises un peu partout à travers le Canada, même aux États-Unis, il s'appelle John Edema. Quelques-uns parmi vous le connaissez bien. Il est venu ici nous accompagner puis nous aider finalement à réfléchir comment on pouvait faire être plus efficace à faire des disciples. Vous savez, la mission que le Seigneur nous confie dans Matthieu 28, c'est de faire des disciples de toutes les nations, de toutes les langues. Et nous voulons être efficaces à faire des disciples comme Jésus nous le demande. Et alors, John est venu, il travaille à plusieurs églises, il a beaucoup, une riche expérience. est venu nous accompagner. Il nous montrait l'importance d'avoir un parcours de formation en 4 phases. Et c'est ça qu'on a mis sur pied, un programme, un parcours de formation pour faire des disciples ici au sein d'Église. Et non seulement ça, il nous a montré aussi l'importance d'avoir différents groupes dans l'Assemblée pour qu'une Église puisse être encore plus efficace à faire des disciples. On a besoin de 3 genres de groupes. Il y a la grande Assemblée le dimanche matin, évidemment, ça c'est ici. Il y a un groupe intermédiaire qui est à peu près 30 à 50 personnes et que nous, on appelle ici groupe connexion. Et je vais revenir avec ça, on veut vous parler de ça tantôt. Et aussi, évidemment, il y a les groupes maison encore plus intimes, environ 6 à 12 personnes que nous avons ici. On en a quelques-uns. Mais nous réalisons qu'on manquait à quelque part, et c'était avec les groupes connexion, d'avoir ce groupe intermédiaire afin de faciliter, aider les gens à l'Assemblée, les gens qui nous visitent. Vous savez qu'il y a à peu près 500 personnes qui nous visitent chaque année. Quelques-uns, évidemment, viennent visiter la famille, mais d'autres sont nouveaux, veulent se joindre, veulent cheminer, grandir dans la foi et s'ajoutent à l'Assemblée, viennent nous voir et on veut les aider à s'intégrer à l'Assemblée. Et c'est très difficile. Les études le démontrent, lorsqu'il y a en haut de 70 personnes, on a l'impression qu'on n'est pas capable de s'intégrer dans l'Assemblée. Et c'est pas juste chez nous, c'est partout comme ça. C'est assez impressionnant. T'arrives, il y a plusieurs centaines de personnes. Donc, les groupes connexion aideront finalement les gens qui s'ajoutent à l'Assemblée à pouvoir s'intégrer. En fait, pas juste ça, ça nous permet, comme enfants de Dieu, les membres plus habitués aussi, à pouvoir connecter les uns avec les autres, à tisser de bons liens entre frères et sœurs dans l'Assemblée. Et c'est ça qui nous édifie les uns les autres. Nous voulons mettre des dons au service des autres, nous impliquer, et les groupes connexion deviennent vraiment approprié pour cela. Maintenant, avant, on n'avait pas la disposition des salles ici. C'était pas assez grand, il nous manquait de salles. Et pour avoir des groupes connexions, il manquait de salles aussi pour le TEE, pour le ministère auprès des enfants. Donc, dans la dernière année, Dieu merci, on a pu aller de l'avant avec la construction, avec la phase 1. Et maintenant, on a assez de place. Déjà, le TEE et la jeunesse se servent de certaines salles. Et on a les salles maintenant de disponible pour commencer les groupes connexion en automne. Maintenant, et c'est ça qu'on veut faire, commencer en automne. Pourquoi les groupes connexion? Bien, comme je l'ai dit tantôt, ça favorise l'intégration dans l'Assemblée, ça l'encourage toute la question des uns des autres. Vous savez, il y a plusieurs dizaines de références dans les Écritures concernant les uns les autres, et on veut favoriser ça, toute la communion fraternelle. On veut faire la mission ensemble, on veut grandir ensemble, apprendre et aussi prendre soin les uns des autres. Ça demande beaucoup d'ouvrage. On est bien conscient de ça parce que c'est assez nouveau. On veut commencer cela en automne. Ça sera entre les 2 services que nous aurons le dimanche matin. Donc, il y aura 3 rencontres le dimanche matin et une entre les 2. Et ce sera des groupes connexion. De toute façon, on va revenir vous expliquer tout ça éventuellement. Mais ça demande beaucoup d'ouvrage, évidemment, parce qu'il y a plusieurs responsables dans ces groupes connexion, des responsables d'enseignement, responsables comme animateurs, des gens responsables pour prier, tout ça. Donc, c'est toute une organisation. Il y a une formation à faire. On veut entourer les groupes connexion. On veut vraiment s'assurer que ça aille bien pour justement poursuivre cette mission que le Seigneur nous confie. Et pour ce faire, le Conseil reconnaît l'effort que ça demande pour bien préparer le départ, pour entourer ce ministère-là, pour toute la question de la formation. Les groupes vont aider à faire des disciples. Mais ça, on est bien conscient. Donc, le Conseil aimerait vous proposer dans une réunion d'affaires qu'on aimerait avoir, une réunion spéciale parce qu'habituellement, on a les réunions d'affaires en automne, mais là, on convoque d'ailleurs officiellement ce matin, on vous convoque, si vous êtes membre, à venir le 25 juin, dans une couple de semaines, à 6h ici, le soir, pour vous présenter finalement 2 projets d'embauche. Tout d'abord, on aimerait vous présenter l'embauche d'Éric Lantier à raison de 2 jours et demi par semaine. Et vous savez qu'Éric, c'est vraiment un don de Dieu à l'Église de Sentier. Il arrive avec tout un bagage d'expérience. Il était pasteur pendant quelques années, plusieurs années d'ailleurs. et vous l'avez déjà voté comme ancien, c'est déjà un des pasteurs ici, mais on aimerait qu'il a accepté, Éric a accepté de prendre la responsabilité d'être coordonnateur des groupes Connexion. Alors, on aimerait l'embaucher pour 2 jours et demi par semaine pendant une période de 2 ans. Donc, on aimerait vous soumettre ça dans la réunion d'affaires. Deuxièmement, vous savez, il va y avoir du changement au niveau du secrétariat. Notre chère sœur Sylvie, qu'on apprécie beaucoup, un vrai bijou, elle va laisser sa fonction de secrétaire. Elle va continuer à assumer pendant 1 an cette responsabilité de comptabilité. Mais la charge de secrétaire, elle va mettre ça de côté. Et notre chère sœur Amélie Camteau a accepté de prendre cette responsabilité-là. Donc, on aimerait vous présenter cette proposition également. Donc, 2 propositions d'embaucher Amélie comme secrétaire de l'Assemblée et aussi Éric Lantier à raison de 2 jours et demi par semaine pour un terme de 2 ans. Si vous voulez prier pour ces beaux projets d'embauche, priez pour des groupes Connexion qui s'en viennent cet automne. On veut que Dieu puisse mettre sa bonne main sur ce ministère. Alors, pourquoi ne pas commencer tout de suite? Courbons-nous juste un instant pour demander la bénédiction de Dieu et aussi qu'on puisse regarder ce passage ce matin, que Dieu nous aide. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour tout ce que tu fais au sein de l'Assemblée, pour ce beau groupe réseau qui a vraiment à cœur d'aider et d'intervenir dans la région, venir en aide aux gens. Merci pour ceux qui le font déjà, d'ailleurs, dans l'Assemblée, à différentes façons. Toutes sortes de projets au sein de l'Assemblée, d'entraide. On te prie de continuer à bénir ces beaux ministères. On te prie, Seigneur, que tu puisses bénir cette réunion d'affaires, nous donner une direction claire et de vraiment que ce soit une belle occasion ensemble de pouvoir se réjouir de tout ce que tu fais au sein de l'Assemblée et comment tu nous donnes de beaux dons au sein de l'Assemblée. Merci Seigneur pour ces choses, pour ces beaux défis qui se présentent devant nous. Nous voulons être plus efficaces à faire des disciples tels que tu nous le demandes. Alors on te prie Seigneur, que tu puisses mettre ta bonne main sur ces rencontres, sur la réunion d'affaires, sur ces ouvriers que tu ajoutes. Je pense à Amélie et à notre frère Éric et son épouse. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien... La semaine dernière, Dominique nous a amené dans tout un passage tout à fait extraordinaire. Ça nous parlait encore une fois de toute notre nouvelle identité maintenant que nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans ce magnifique passage dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10, où on décrit finalement ce que nous sommes maintenant en Jésus. Et on a vu ça avec notre frère. Et c'était doublement important, surtout pour les premiers chrétiens. Alors que, et bien des chrétiens dans le monde maintenant qui connaissent aussi la persécution, parce que les premiers chrétiens, vous savez, c'était vraiment pas facile pour eux d'être un enfant de Dieu. L'Empire romain, de plus en plus, mettait de la pression sur les chrétiens. C'est devenu même plus tard illégal, carrément, le christianisme. Mais il y avait des pochettes ici et là de gens qui persécutaient les chrétiens, et c'était très difficile. Donc, ils ont vraiment apprécié cette lettre de Pierre. Dieu a inspiré Pierre à écrire cette lettre afin de redonner de l'espoir, à nous montrer aussi à tous ceux qui souffrent, parce qu'on souffre, ça peut être la souffrance, on va tous connaître la souffrance un jour ou l'autre, si ce n'est pas par la persécution. Ici, en Amérique du Nord, on connaît moins la persécution que dans d'autres pays à travers le monde, mais on connaît la souffrance de différentes façons, que ce soit dans un mariage brisé, soit par nos enfants aussi. Qui passent des temps houleux, difficiles, ça peut être aussi de la santé. Alors, la lettre de Pierre est vraiment à propos, très appropriée, et nous avons besoin de nous pencher sur la lettre de Pierre, si ce n'est même que de nous préparer afin d'avoir les munitions, nous outiller, lorsque nous-mêmes, un jour, peut-être, si tout va bien aujourd'hui, nous préparer à faire face à ces moments qui sont difficiles. Vous savez, qu'est-ce qu'on a besoin lorsqu'on passe par des moments difficiles et qu'est-ce que les premiers chrétiens avaient vraiment besoin lorsqu'ils passaient par ce temps de persécution? Tu as besoin d'espoir. Et on a un bel exemple avec l'apôtre Jean. C'est fascinant ce que Jean a vécu, tout à fait extraordinaire. Et il a vécu cette révélation de Dieu, mais en plus, Dieu lui demande d'écrire cette révélation pour que nous puissions la voir avec nous. Et c'est le livre d'Apocalypse. Parce que Jean connaissait la persécution. Il était dedans. D'ailleurs, tous les autres apôtres ont été tués, martyrs. Donc, c'était vraiment pas évident d'être chrétien, et surtout pas d'être un leader de l'Évangile qui implantait des églises ici et là. Mais Jean a eu une sentence différente. Il a été placé en exil, loin de chez lui, sur une île qui s'appelle l'île Patmos. Et lui-même va partager qu'il est persécuté à cause de l'Évangile, au nom de l'Évangile. En d'autres mots, il vit ce que plusieurs vivaient à l'époque à cause de l'Évangile. Vous savez, on a même tué Jésus. On a refusé son message, on ne voulait pas entendre son message. D'ailleurs, combien de fois, dans le livre des Actes, on voit les autorités et religieuses et gouvernementales un peu qui ne savaient pas trop quoi faire avec cette nouvelle croyance qui se promenait, mais sous la pression de certains leaders religieux, eux-mêmes se sont joints à persécuter les chrétiens, à les fouetter, à les jeter au cachot, en prison. Combien de fois, n'est-ce pas, on voit même Paul souffrir à cause de la persécution. Mais Jean aussi, il est victime de persécution. Nous allons tourner ensemble dans un livre qui est énigmatique, pour le moins la façon la plus simple de le dire, le livre de l'Apocalypse, si vous voulez. Et on va tourner dans cette vision que Jean va avoir, une vision tout à fait fantastique. Et Jean voit des choses. Comment tu décris ces choses-là? Alors, imaginez si un Jean voit tout d'un coup, Jean qui vit il y a 2000 ans, voit un jet F-18 se promener dans le ciel avec du feu en arrière. Comment est-ce qu'il va appeler ça? Peut-être dragon. Alors, c'est vraiment pas évident de décrire, il n'y a pas la tâche facile de décrire dans les mots d'autrefois ce qu'il voit. Mais ce qui est important, parce que là, le livre de l'Apocalypse s'inscrit dans un genre littéraire qui s'appelle la littérature apocalyptique. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'images. Et il ne faut pas se laisser distraire par les images, mais d'aller chercher plutôt la leçon, le principe derrière l'image. Et c'est ça qu'on veut retenir, et c'est ça qu'on va voir ce matin. Et certainement, on comprend qu'il y a différentes approches du livre de l'Apocalypse, parce que c'est un livre qui est complexe, vraiment complexe. Et on ne fera pas une étude du livre de l'Apocalypse ce matin, mais j'aimerais m'arrêter vraiment sur la vision de Jean, parce que c'est ce que nous avons besoin lorsqu'on passe des temps difficiles. On a besoin de se tourner vers en haut. On a besoin de se souvenir, et Pierre, d'ailleurs, dans sa lettre, qui prépare les chrétiens à faire face à la musique, à braver la tempête, qu'est-ce qu'il va faire? Il va constamment pointer vers le haut et rappeler les gens qui on est maintenant. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous et ce que nous sommes maintenant et comment vivre maintenant. Alors, constamment, Pierre, du début de sa lettre jusqu'au chapitre 2, d'ailleurs, toute sa lettre est empreinte. Il va revenir constamment avec ce cycle. D'ailleurs, le passage, je doute qu'on ait le temps de le voir ce matin. On avait plusieurs annonces à faire ce matin ici, là. Mais pour le peu de temps qui nous reste, pas grave, on va reprendre. On a du temps ensemble, on va reprendre ça dans quelques semaines. C'est pas grave. Si le Seigneur n'est pas revenu. Si le Seigneur est revenu, bien, il va avoir un meilleur enseignant en haut qui va tout nous expliquer ça. Et moi, je serai dans la salle, j'écouterai avec vous, puis je chanterai avec vous des louanges, là. Mais sinon, eh bien, on va revenir à ces passages-là. On fait juste comme introduire un peu. Au moins la vision, j'aimerais bien passer à travers la vision. Mais Pierre va constamment faire ça. Il va dire, regarde qui tu es. Et dans le fond, le message de Pierre qu'on a vu avec ce beau message de Dominique la semaine dernière, magnifique passage. Et depuis le début de la lettre de Pierre, ce que Pierre essaie de nous dire, écoutez, c'est pas la fin. Je sais, ça a l'air dur en ce moment, et c'est dur de vivre cette persécution, ces moments très difficiles, c'est tendu, c'est dur, il y en a même qui meurent, qui perdent tout leur bien parce que vous avez placé votre foi en Jésus. Mais je veux que vous sachiez, je veux vous faire voir, et c'est ça le but de la lettre d'Apocalypse, je veux te montrer que ton équipe gagne. Amen? Oui, oui, oui. Ton équipe gagne. Ce que tu vis en ce moment, cette période difficile, c'est juste temporaire. On est des étrangers ici, là. C'est temporaire. Il y a quelque chose de glorieux. Il y a un trône plus grand, plus haut. Et pour les premiers chrétiens, c'était important qu'il réalise qu'il y a un trône plus haut que César. Et il y a quelque chose de plus gros, là. Et Jean a ce privilège de pouvoir avoir cette vision. Alors, tournez avec moi dans l'Apocalypse chapitre 4, qui dit ceci. Apocalypse chapitre 4, c'est le dernier livre de la Bible. Vous ne pouvez pas vous tromper. Même si c'est la première fois que vous ouvrez la Bible, vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord? C'est le dernier livre. C'est pas compliqué. Allez jusqu'à la fin. Après ça, tranquillement reculer jusqu'au chapitre 4. D'accord? Apocalypse chapitre 4. Et dans l'Apocalypse chapitre 4, nous avons une vision du trône de Dieu. D'accord? Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais. Alors, c'est Jean qui parle. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Imagine-toi donc. Jean reçoit le privilège de faire une visite du ciel. C'est tout un privilège. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette, dit alors, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un qui était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la terre. Mais on s'entend qu'aucun artiste, quel que soit son talent, ne peut représenter ce que Jean est en train de voir. Vous allez voir après. Mais verset 4 dit, autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ce trône, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur sa tête. Qui sont ces 24 anciens? Ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a plusieurs théories là-dessus. Et on réfléchit, on pense, certains croient qu'il s'agit des représentants de l'Église, parce que dans un certain sens, ça a bien de l'allure. 24, c'est un chiffre qu'on pourrait bien comprendre. 12 tribus de l'Ancien Testament qui représentaient tous les croyants de l'Ancien Testament et 12 apôtres qui représentaient tous les croyants du Nouveau Testament. Donc, 24, 12 plus 12. Et certains vont voir... Alors, ça représentait tout le peuple de Dieu. Il voit les vêtements blancs et la couronne comme les récompenses du chrétien. Les 24 peuvent également représenter les classes de sacrificateurs de l'Ancien Testament. Il y a d'autres qui s'en viennent, et ça s'en vient de plus en plus populaire, ça se répand beaucoup. D'autres voient dans ces 24 anciens des anges, mais pas n'importe quel ange, des anges qui occupent un rang vraiment très, très haut. On voit dans les Écritures qu'il y avait différents ordres d'anges, et ceux-là seraient très, très hauts. Donc, il donne quelques raisons pour ça, et j'aimerais vous les soumettre pour que vous puissiez revoir ces choses-là, puis réfléchir, savoir si vous êtes d'accord ou pas. Vous savez, on chemine tous à comprendre de plus en plus les Écritures. Donc, il n'y a pas de chicane à avoir avec l'Apocalypse, puis tirer là, chacun de son bord. Moi, je crois ça, etc. Non, on est tous en chemin. On chemine pour comprendre de mieux en mieux les Écritures. Alors, il y en a qui sont arrêtés, disent, moi, je crois cela, tant mieux. Ils sont convaincus, ils ont des arguments pour ça. Et ce que je remarque avec les années, Monsieur Keefe qui disait, lorsque j'étais plus jeune, j'avais plus de réponses. Et dans le fond, ce qu'il était en train de dire, c'est que, à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit, tout ça, on s'aperçoit qu'il y a quand même des faiblesses dans chaque position qu'on va occuper. Donc, ça prend un respect mutuel là-dedans, et on peut être à l'aise à occuper une certaine position, et c'est correct, ça. La recherche, c'est ça qui est édifiant, c'est ça qu'on veut découvrir. On va avoir les réponses au ciel, on a toute l'éternité pour avoir des réponses là-bas. Mais j'aimerais vous donner quand même les arguments pour ceux qui occupent cette position-là, qui croient qu'il s'agit des anges ici, d'un rang tout à fait particulier, pour que vous puissiez retourner et réfléchir à ça. Et peut-être que vous ne serez pas d'accord. C'est correct, ça. C'est pas grave. C'est pas un péché. On chemine. Alors, premièrement, ceux qui croient à cela, les anges font souvent partie de la littérature apocalyptique. C'est très propre, approprié pour cette littérature-là. Deux, c'est souvent la fonction des anges que d'interpréter les visions des prophètes et des êtres humains. Et c'est ce que ces 24 vieillards vont faire avec Jean dans le chapitre qui va suivre. Une autre raison qui expliquerait qu'il s'agirait peut-être d'anges ici, c'est que ces 24 anciens offrent des prières à Dieu, des prières de croyants, et il les apporte comme en flottant vers la présence de Dieu. Et c'est exclusivement le rôle des anges de faire cela dans les Écritures. On le voit d'ailleurs ailleurs au chapitre 8. Mais on ne voit nulle part un être humain occuper ce rôle-là dans les Écritures. Alors, c'est un autre argument. Quatrième raison que certains pensent qu'il s'agirait des anges ici, c'est l'Apocalypse chapitre 7, verset 13 à 14. Jean aborde l'un des 24 vieillards et l'appelle « Seigneur ». Est-ce que tu ne verrais pas les chrétiens faire dans les Écritures? Mais ça semble approprié ici. Dans la cinquième raison, Apocalypse 14, 3, les chrétiens semblent chanter un nouveau chant, mais les anciens ne chantent pas. Si c'est des anges, on comprend pourquoi. Parce que le chant fait référence au salut, à la rédemption. Ce que les anges ne peuvent expérimenter. Ils ne peuvent pas chanter ce chant de la rédemption. Ils ne peuvent faire l'expérience du salut. Paul fait référence aussi à des rangs d'anges, sixième raison, comme des principautés, des dominations. Donc, on voit qu'il y a ces rangs-là. Et la vision du chapitre 7, verset 9 à 11, semble montrer des cercles autour du trône. Et plus on monte, plus qu'on monte de rang. Il semble avoir une hiérarchie, là. Et la même vision va revenir au chapitre 19, 1 à 4. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces 24 anciens, que ce soit des anges, que ce soit des représentants de l'Église et tout ça? Qu'est-ce qu'ils font? Bien, leur fonction est d'offrir les louanges à Dieu. On le voit au verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Devant le trône, verset 6, il y a aussi comme une mer d'eau qui est la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent quatre êtres vivants couverts Dieu devant et derrière. Alors, ces quatre êtres vivants sont les anges qui occupent un rang encore plus haut, plus supérieur. Le verset 7 continue, il dit « Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. » Imaginez un artiste essayer de dessiner ça. Là. C'est mon ami, c'est comme... Mais comme je vous disais, il faut regarder le message derrière l'image et pas se laisser distraire par l'image. Le lion, ici le premier visage, le lion représentait dans l'Antiquité la tête de tous les animaux. C'est le roi des animaux. Et c'est une façon de décrire le trône, le gouvernement de Dieu. Et ce que ça laisse entendre ici, c'est que ça signifie que le trône de Dieu est royal. Deuxième visage ressemble à un taureau et cela représente la force. Donc, le trône de Dieu est fort et il est puissant. Donc, il est royal, il est fort, il est puissant. Troisième visage est celui d'un homme et cela fait référence à l'intelligence. Donc, le trône de Dieu, le gouvernement céleste est intelligent. Il est royal, puissant, intelligent. Quatrième ressemble à un aigle, ce qui donne à penser à l'agilité et la vitesse à faire la volonté de Dieu. Donc, mettez ça ensemble, le trône de Dieu, l'administration de Dieu est royale, intelligent, puissant et rapide et agile à exécuter les commandements de Dieu. Mon ami, c'est tout un gouvernement, cela, un gouvernement parfait. Ça, c'est la vision. Verset 8 continue, ça dit, les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et sont couverts Dieu tout autour et à l'intérieur. Ces ailes, évidemment, hein, on pense tout de suite à Ésaïe, Ésaïe 6, ils ont six ailes, et comme on le voit dans Ésaïe, ils ont deux ailes pour voler, rapides, pour exécuter les commandements de Dieu, deux pour se couvrir leur partie inférieure, ce qui représentait dans l'Antiquité, en passant, un signe de modestie, et deux autres ailes pour couvrir leurs yeux, afin de ne pas regarder Dieu directement, et mourir. Parce que les Écritures sont bien claires, on ne peut pas regarder Dieu comme ça, sans mourir. C'est une image qui nous vient du livre d'Ézéchiel. Et pourquoi les yeux tout autour? C'est une image qui nous rappelle que le trône de Dieu voit tout, omniscient. Alors, le trône de Dieu est sage, il voit tout passer. Le trône de Dieu est royal, intelligent, puissant et il transforme. Il est rapide à accomplir la volonté de Dieu. Il voit tout. Et le texte continue en disant, il ne cesse de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était et qui vient. » Verset 9, « Chaque fois que les êtres vivants donne gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Verset 10. Les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Et cette vision de Dieu va se poursuivre avec une autre vision tout à fait extraordinaire qui commence au chapitre 5. Donc, suivez-moi si vous êtes encore là, si vous n'êtes pas arrêté à quelque part sur une des images, là, puis vous êtes en train encore vous imaginer ce que ça peut avoir l'air. Alors, revenez avec moi ici, le chapitre 5, Apocalypse, et la vision continue. Lisons les 4 premiers versets. « Puis je vis, c'est Jean qui continue, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? » Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Alors Jean dit au verset 4, « Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. » Maintenant, voici Dieu, voici la scène. Dieu a un manuscrit, vous savez, un rouleau dans ses mains, et il est scellé de 7 sceaux. Maintenant, pourquoi? On voit aussi un détail qui s'est écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Ce qu'on ne voyait pas souvent, il n'y avait que deux occasions, deux raisons pour lesquelles on pouvait écrire à l'intérieur et à l'extérieur. C'était pas très évident d'écrire à l'extérieur du manuscrit. Vous savez, le manuscrit était fait avec toutes sortes de avec une genre de plante et tout ça. Et c'était pas évident à l'extérieur. On gardait la surface douce à l'intérieur. Donc, on n'écrivait pas vraiment à l'extérieur. La seule raison pourquoi il y en avait deux, pourquoi on aurait écrit intérieur et extérieur. Et un, c'est si on était pauvre, parce que ça coûtait très cher, les manuscrits. Donc, si on était pauvre, on écrivait le plus possible sur le même rouleau. Mais Dieu n'est pas pauvre. Donc, il y avait une deuxième raison pourquoi aussi qu'on écrivait à l'intérieur et à l'extérieur, c'est qu'il y avait tellement de choses à dire, on ne voulait pas écrire, et c'était important, c'était royal, on ne voulait pas que ça soit écrit en deux rouleaux, que ça se disperse et tout ça. Donc, lorsqu'il y avait un écrit très important, majeur, on écrivait ça sur le même rouleau. Ce qu'on découvre, c'est que ce rouleau-là est attaché, c'est ce qu'on faisait, n'est-ce pas? On prenait un rouleau, on roulait un manuscrit, c'était très long, des fois ça pouvait mesurer 35 pieds. Et on roulait, on l'attachait. Et lorsqu'on était pauvre, on avait juste un sceau. C'était l'équivalent de notre signature aujourd'hui. Vous savez, tu laisses, on voit ça, hein, des fois des films, tu laisses un peu le Moyen-Âge, là, c'est la cire et tout ça. Ça existe même encore aujourd'hui, ils font ça en cadeau des fois, pour des cadeaux. Puis tu mets un sceau. Ça, c'était la signature à l'époque. C'était comme ça qu'on officialisait un document. Maintenant, si tu étais riche, tu avais plus qu'un sceau. D'ailleurs, c'est intéressant de voir ici qu'il y a 7 sceaux à l'intérieur, qui nous parle, qui nous fait penser vraiment à l'amplitude, la richesse de Dieu. C'est intéressant parce que Vespasien écrit son testament, et on a découvert que son testament avait été écrit, et il avait été scellé par 7 sceaux. C'était un gouverneur, c'était un empereur. Et c'est ce qu'on voyait à l'époque de l'Antiquité. C'était très commun à l'époque. Mais voilà ce que Dieu, ce que nous voyons ici, c'est que ça parle de quoi? Ce qu'on va apprendre plus tard, c'est que ce manuscrit, ce rouleau, c'est quoi? C'est toute la révélation de Dieu sur le salut et sur le jugement de l'univers. Et ce qu'il faut savoir dans l'Antiquité, c'est que même si tu avais un document qui avait été écrit par un roi, il ne devenait pas en force, il n'était pas applicable jusqu'à ce qu'on rompt le sceau. Donc, vous pouvez imaginer Jean ici qui voit toute cette volonté de Dieu pour le salut, la rédemption, pour notre salut, et aussi pour le jugement de l'univers qui est scellé dans ce rouleau, et parce que personne n'est digne à rompre le sceau, toute cette volonté du salut et du jugement reste fermée et ne peut s'exécuter. Parce que pour qu'un document, l'époque, devienne comme efficace, qu'il puisse s'exécuter, il doit être rompu. D'où cette parole, tout d'un coup, que nous voyons, verset 5. « Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Ça parle de qui, ça? Hey, Jésus-Christ. On voit qu'il y a eu un combat, parce qu'il a vaincu, ça parle de victoire, il y a eu un gros combat. Alors il est dit ici, ne pleure pas, Jean, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre des sept sceaux. Maintenant, verset 11, on va sauter au verset 11, ça dit, je regardais et j'entendais la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades et des myriades et des milliers de milliers. C'est Lee Anderson qui estimait que ça représentait probablement 100 millions. Donc, 100 millions d'anges qui sont là, qui donnent gloire à Dieu. Et il disait au verset 12, une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Ça parle de Jésus ici. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendais s'écrier à leur voix forte à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Verset 14, les quatre êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Bon sang, imaginez-vous, lorsque vous commencez à prier chez vous, là, c'est devant ce trône-là que vous commencez à prier. Vous entrez là. Vous entrez dans la présence même de Dieu. Puis il faut se rappeler là, que lorsque Jésus a été crucifié, le voile du temple où Dieu résidait, dans le lieu très saint où personne n'avait accès, personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint où Dieu se trouvait, sauf un souverain sacrificateur, seulement une fois par année, il se dépêchait même d'entrer et sortir. Maintenant, le voile a été déchiré lorsque Jésus a été crucifié. Et le message, c'est que maintenant, nous avons accès dans le lieu très saint, dans ce lieu-là, dans la présence même de Dieu, où tu as ces 100 millions d'anges et plus encore, qui journellement, tous les jours, 24 heures sur 24, donnent, offrent, de la louange à Dieu. Alors, quand tu commences à prier, c'est là-dedans que tu rentres. C'est dans cette présence-là, devant ce trône-là. Bon sang, quand on souffre, on a tellement besoin de se rappeler de cette vision-là que, regarde, mon ami, regarde ton avenir, regarde ce qui s'en vient, n'est-ce pas? Regarde ce qui s'en vient. Et là, si on revient à Pierre, il vient d'exposer ça juste avant, là, cette présence, comment nous avons accès, comment on peut approcher avec assurance notre Dieu. Maintenant que nous sommes ses enfants, nous avons été adoptés, nous sommes maintenant les prêtres saints, et c'est ce que Dieu a fait avec nous, les enfants de Dieu, des prêtres, des pierres vivantes. Alors, Pierre bâtit sa lettre, envoie sa lettre à ces gens qui souffrent et dit, à la lumière de tout ça, à la lumière de ce que vous êtes maintenant, à la lumière de ce que Dieu a fait, ce que Dieu a accompli, comment il vous a changé et que vous êtes une nouvelle personne, à la lumière de ça, maintenant voici comment vous devez vivre. Voyez-vous? C'est comme ça que la lettre de Pierre est construite et bâtie. Donc, juste très rapidement, si on revient à 1 Pierre maintenant, juste introduire ce passage. Pierre, chapitre 2, verset 11, dit « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire. » Voyez-vous? Voyez-vous ce que ça dit? Voyez-vous ce que là où Pierre nous amène, et ça fait la troisième fois qu'il revient avec l'identité du chrétien. Il suit ce cycle constamment dans la lettre de Pierre. Il va toujours revenir à ton identité, qui tu es maintenant. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que nous sommes des étrangers. On est ici, c'est temporaire. Pense à ton éternité. Alors il dit, bien-aimé, je vous encourage en tant que résident temporaire. Il a déjà dit ça. D'ailleurs, même quand il commençait sa lettre, il dit, vous êtes des étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. On n'aura pas le temps de voir tous les détails ici, mais juste simplement pour dire ceci, c'est qu'il y a deux défis que nous aurons qui vont nous empêcher de connaître la victoire, de braver la tempête dans la victoire. Et Pierre nous donne la solution à cela. Deux sources de problèmes auxquels on va être confrontés, vous et moi. Vous savez, c'est quoi, premièrement, c'est nous autres. Je dis souvent, notre pire ennemi, c'est nous.